nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Je suis ici à Fès en compagnie de Maurice Arama, le spécialiste d'Eugène Delacroix, qui intervenait donc dans les rencontres culturelles. Eugène Delacroix qu'on décrit comme le peintre, l'artiste qui peignait ce qu'il ne pouvait dire et écrivait sur ce qu'il refusait de peindre. Qu'en pensez-vous, Maurice Arama ?
C'est justement la chose qui est assez exceptionnelle avec cet homme, c'est qu'il a passé, par des raisons politiques, des raisons de société, a passé son temps à se cacher d'un certain nombre de choses, parce qu'il ne pouvait pas, vu les tensions politiques, les changements de gouvernement. Il est né sous l'Empire, il a connu ensuite les Bourbons, puis ensuite il a connu Louis-Philippe, après la Révolution de 1830, la société Louis-Philippe, puis il y a eu la République, puis ensuite il y a eu Louis-Napoléon Bonaparte. Donc changer comme ça de gouvernement, etc., les responsables changeaient aussi. Donc il est resté toujours, lui, le plus près, le plus possible des gens qui le pouvait rencontrer et qui pouvait l'aider à obtenir quoi ? Des commandes, du travail, des honneurs et un peu d'argent. Donc, toujours, un peintre est obligé de frayer, et à l'époque en particulier, frayer avec la société. Est-ce que ça a changé ? Non, je ne pense pas. Je crois qu'aujourd'hui encore, les peintres essayent d'obtenir des prix, essayent d'obtenir des droits d'exposer, d'être dans des musées. Et donc tout ça se fait avec un certain nombre d'influences, d'aides des uns et des autres. Et c'est la vie un petit peu. Mais Delacroix, qui était vraiment un rebelle au fond de lui-même, ne pouvait pas tout accepter de la société. Donc il se cachait dans ses toiles et il disait autre chose que ce qu'il vivait. Il vivait des moments compliqués parce que, je vous ai dit, les problèmes politiques, les problèmes de société, etc. Il était obligé de courber les chines parce que c'est comme ça. Mais dans ses peintures, il disait autre chose. Alors si je dois simplement aujourd'hui avec vous évoquer quelques-unes des toiles, quelques-uns des tableaux qui justement disent ce qu'il ne voulait pas dire ou disent ce qu'il ne pouvait écrire. Prenons simplement pour commencer aujourd'hui, si vous voulez bien, toute la série des animaux, le bestiaire, où on voit des tigres qui pourfendent des chevaux qui piétinent des lions qui dévorent des serpents. Ce monde-là est un monde africain. Comment se fait-il que Delacroix a fait tout ça ? Bien sûr, il allait au Jardin des Plantes avec Barry pour dessiner les animaux, parce que ça fait partie des exercices quotidiens de tous les peintres de dessiner. On dessine le corps humain, on dessine de jolies femmes, on dessine des visages, on dessine des cadavres qui sont mis en morceaux, parce qu'on comprend comme ça l'anatomie. Mais en dehors de cela, c'est que surtout cette période-là, des animaux qui se déchirent, qui se dévorent, etc., c'est une période qui est venue après son voyage en Afrique. Quand il est arrivé au Maroc, nous en parlerons si vous voulez une autre fois, quand il est arrivé au Maroc, il a terminé son voyage par l'Algérie. Il est allé en Algérie, s'est arrêté d'abord une dizaine de jours à Oran, et ensuite 3 jours à Alger. Arrivé à Alger, il a vu des choses terribles. C'était le moment où la colonisation venait à peine de commencer. 2 ans après l'arrivée des armées françaises, il a vu des choses terribles. À savoir, on était en train d'ouvrir des voies géantes, enfin des boulevards si vous voulez, pour au milieu de la ville. Et ça veut dire que les terrassiers démolissaient des mosquées, démolissaient des cimetières, et il a vu des choses effroyables, à savoir des cimetières complètement ruinés, complètement démoli, avec quelquefois même les cadavres qui étaient encore là, avec les gravats. Et il a écrit des mots terribles qui commençaient par « j'ai vu ». J'ai vu, j'ai vu 3 fois le mot « j'ai vu ». Et entré, revenu en France, que pouvait-il faire ? Montrer les cimetières dévastés ? Montrer les maisons ? Non. Il ne pouvait pas. Il venait d'obtenir une commande géante, merveilleuse, celle de décorer le palais Bourbon. Plafond, bibliothèque, etc. N'allez quand même pas attaquer l'armée française et le gouvernement. Ce n'est pas possible. D'autant plus que on lui demandait par ailleurs de faire une toile sur la conquête d'Alger. Il ne l'a pas faite. Il n'a pas montré l'armée française arrivant et prenant possession d'Alger. Non, il n'a pas une toile. silencieuse, discrète, qui s'appelle les femmes d'Alger. Nul n'a compris à ce jour ce que cela voulait dire pour Delacroix. Delacroix ne voulait pas montrer toutes les ruines qu'il a écrites, parce qu'il a laissé un manuscrit qu'on a retrouvé il y a peu. Mais en faisant une toile silencieuse, de résistance, un sit-in, comme on dit, de trois femmes assises ensemble, silencieuses, dans leur décor, dans leur quotidien, avec une juste lumière qui arrive frisante et qui passe sur l'épaule, une lumière qui vient d'un soupirail. Où est-ce qu'on voit une lumière comme ça, dans un soupirail? Uniquement dans les prisons, uniquement quand le Christ souffre, qu'on voit une lumière qui arrive comme ça par le biais. Il a fait cette toile, les gens n'ont rien compris, mais lui ne voulait rien dire. Qu'avait-il à expliquer? Si les gens ne voient pas, c'est leur problème. Jamais, sur cette toile, on a dit ce qu'il fallait dire.
Vous parlez en quelque sorte d'un homme engagé, d'une certaine manière.
C'est un homme engagé, mais jamais en public, jamais visible. Quand il était jeune, il était poursuivi comme carbonero, ça veut dire un terroriste, un petit peu terroriste. Il a été recherché par la police. Mais au fur et à mesure, en société, il se comportait de manière rigide, distante. L'engagement est dans ses toiles. Il s'est engagé une fois dans les femmes d'Alger, je vous l'ai dit. La seconde fois, quand il a fait le portrait de Moulay Abdelrahman, le roi du Maroc, à cheval, sortant de son palais à Meknès. Il l'a fait en 1845. L'année d'avant, le même roi, ennemi de la France, avait été battu. Ennemi. Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'un peintre puisse faire, après la guerre, après 1945, un portrait d'Hitler, ou de Mussolini, ou de Franco, ou de n'importe qui? Ce n'est pas possible. Lui a négocié en 1845, un an après que le roi du Maroc ait été battu, qu'on en était encore à défiler à Paris pour célébrer cette victoire, à transporter les drapeaux des Tuileries aux Invalides avec musique militaire et en présence du roi. Il lui attend tout ça et qu'est-ce qu'il fait? Il obtient de pouvoir faire un portrait du roi à cheval, pas vaincu, mais digne, grand, en majesté. Il l'a fait en majesté. Voilà une preuve de résistance. Mais il y en a des dizaines, il y en a des dizaines comme ça chez lui, où régulièrement, il a peint une chose pour dire ce qu'il ne pouvait pas dire.
Beaucoup de peintres ont marqué leur temps, leur histoire, en commentant d'une certaine manière le fil du temps. Delacroix se démarque, vous l'expliquez très bien, de cette façon-là. Est-ce que vous pouvez mettre plus en exergue sa particularité, peut-être qui tient à sa personnalité, à l'homme ou à un autre trait?
Il y a énormément de peintres qui sont engagés. Le tout récent, dans les temps qui nous concernent, c'est Picasso, bien sûr. Picasso avec Guernica. Mais si vous regardez Guernica, si vous voyez comment la toile est construite, repartez voir immédiatement la toile de Delacroix, Sardanapale. Vous verrez que Sardanapale et Guernica, c'est la même composition, avec le même nombre de personnages, avec un bâtiment qui brûle. Parce que Picasso, c'est un monsieur qui était extraordinaire, qui savait copier, etc. Il savait qu'il y avait là un filon. Bien sûr, il l'a utilisé. Bien sûr, il l'a fait en noir et blanc. Parce que les actualités de l'époque, pour la guerre d'Espagne, c'était du noir et du blanc. Mais quand vous regardez la composition de Sardanapale et la composition de Guernica, alors il y a d'autres peintres, bien sûr, qui se sont affichés. Prenons l'exemple de Goya. Goya, quand il peint les 3 mai à Madrid, face aux Français qui fusillent les résistants espagnols, Delacroix connaissait la toile. Manet l'a recopié ensuite, également, pour la chute de Maximilien. Ce genre de manifestation, souvent les peintres le font, ils indiquent parce qu'ils veulent être témoins de leur temps. Mais encore une fois, Delacroix ne pouvait pas être physiquement, par sa peinture, dire, mettre les points sur les i. Mais je vous dis que ce texte qu'il a laissé après son passage à Alger, où il y a écrit « j'ai vu », quand vous regardez comment la lettre, comment ça s'écrit le mot « vu », V-U, on a l'impression que ce sont des bras levés. Le « vu », ce sont des bras levés. Il n'a pas publié le texte de son vivant, il ne le pouvait pas, mais le texte existe, on l'a retrouvé. Et il explicite, il nous aide à comprendre un certain nombre de peintures de Delacroix.
Est-ce que vous pensez que Delacroix a initié un nouveau courant au niveau de l'engagement politique, ou renouvelé quelque chose à l'époque ?
Non, on peut pas dire cela, parce que il rêvait de rentrer à l'académie, il devait renier, comme je dis quelquefois, et ses griffes, parce qu'il fallait absolument qu'il soit là, avoir de grandes expositions, qu'on garde ses toiles, il fallait qu'on les garde dans les musées où ils étaient, ce n'était pas facile, jusqu'au dernier moment, il a peint, et un jour, je vous parlerai, enfin, si vous voulez, de son testament qui est à Saint-Sulpice, et quand on comprend le testament de Delacroix à Saint-Sulpice, quand on comprend ce que le combat de Jacob et de l'ange veut dire chez lui, pour... Aucun n'a d'ailleurs compris à ce jour, je vous le dis, parce qu'au moins il y aura un témoin, je l'aurais dit. Jamais aucun n'a compris le message de Delacroix à Saint-Sulpice. Aucun. Aucun n'a compris pourquoi il a mis un chapeau de paille en bas, au-dessus des armes d'un bouclier, au-dessus d'un carquois, au pied de deux hommes qui se battent, un ange et Jacob. Or, le Jacob ne porte pas les vêtements qui vont avec les armes qui sont par terre. Comment on peut mettre une chose aussi invraisemblable, des armes inconnues, à côté de gens qui se battent et qui n'ont rien à voir avec les armes qui sont en bas? Pourquoi ce chapeau de paille? Qui l'a expliqué à ce jour? Aucun. Je pourrais un jour vous le dire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Alors nous sommes tout à fait impatients d'en savoir plus très rapidement. Est-ce que vous pourriez nous dire un dernier mot sur vous et pourquoi l'envie de travailler sur Delacroix, de mieux le connaître? On vous sent très très proche de lui, pas seulement sur un plan encyclopédique mais aussi un plan très humain. Vous vous sentez proche de lui?
Ah oui, je crois que je me sens tout à fait proche de lui. Enfant, je dessinais. Ça arrive, heureusement. Tous les enfants devraient dessiner d'ailleurs. Et un jour, quand je terminais mon professorat de dessin, j'ai suivi des cours à l'école du Louvre. Et un jour, pour la peinture du 19e siècle, on nous a passé une diapo. Et cette diapo représentait une fantasia devant une porte de Meknès. Le seul problème, c'est que la porte de Meknès était celle que j'avais du haut de ma terrasse, en permanence. D'où mon étonnement. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais je la connais, cette porte. Alors immédiatement, je suis allé au Louvre, où j'ai demandé s'il y avait autre chose. Et on m'a sorti des dizaines et des dizaines de dessins que personne ne connaissait, qui étaient dans des cartons réservés à quelques spécialistes, académiciens par exemple. Et moi, j'étais tout jeune, donc j'ai demandé la possibilité de regarder. Et quand j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'erreurs. Parce que moi, les rues, je les connaissais. Les maisons, je les connaissais. Les ruelles de Meknès, je les connaissais. La manière dont les gens s'habillent, je savais. Il y avait plein d'erreurs. Alors je l'ai dit. On m'a regardé avec étonnement en se demandant « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il vient nous dire ?» C'était pas sérieux. Alors je me suis mis à étudier et à chercher. Et en cherchant, au fur et à mesure, le contact entre lui et moi n'a fait que se vivifier. Et je suis surpris. Je continue à penser que de temps en temps, quelque part, il m'envoie des documents que personne ne connaît. C'est ainsi que j'ai découvert comment il avait voyagé au Maroc. Que j'ai découvert les documents, son passeport, découvrir qu'il est venu à ses frais parce que la France ne pouvait pas lui payer le voyage. On lui a donné le passage sur le bateau, mais il devait se débrouiller tout seul. Avoir ce papier en main faisait de moi, j'avais son passeport. Et puis au fur et à mesure que j'avançais, des documents comme ça venaient vers moi de manière très mystérieuse. Et continue de venir très mystérieuse, venir vers moi et me donner, parce que comme je pense à ça, en permanence. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Donc au fur et à mesure, j'ai des creux, j'ai des doutes. Et quelque temps après, j'ai une réponse.
Pourquoi est-il venu au Maroc? Évidemment, nous rentrerons dans la profondeur du sujet prochainement, mais juste une petite introduction. Pourquoi le Maroc? Pourquoi la question orientaliste?
Il est venu au Maroc parce qu'il y avait des problèmes entre la France et le Maroc. Il est venu au Maroc parce que la France venait d'occuper l'Algérie en 1830. Et les problèmes frontalier était énorme. Donc la France jugeait utile d'envoyer un ambassadeur pour régler le problème des frontières et autres petits problèmes entre la France et le Maroc. Bon, il se trouve que l'ambassadeur qui a été choisi, un monsieur, un comte, qui avait 30 ans, s'est dit « Oh là là, aller dans ce bled-là, dans ce paysage, truc, on ne sait pas ce que c'est, etc. » Il voulait des compagnons avec lui. Et donc, il cherchait un peintre. Personne n'a pensé à Delacroix. Puis ensuite, un soir, tous les peintres qui avaient été contactés avaient refusé. Delacroix venait de faire la liberté guidant le peuple. Il venait d'avoir la Légion d'honneur. Et donc, il avait aussi des problèmes secrets et personnels avec une personne, et donc on lui a proposé de partir là, il a dit pourquoi pas, et il est parti. Il est venu donc au Maroc, à ses frais, et c'était une nouvelle aventure du coup. C'était exactement à la pointe du méridien de sa vie, la moitié de sa vie. Il est arrivé au Maroc à un moment où les choses bougeaient pour lui. Et puis, une fois qu'il était au Maroc, tout un autre univers s'est ouvert, il y a d'autres portes, et voilà, c'est ça l'art.
Une dernière question, qu'est-ce qui vous fascine le plus chez Delacroix ? La beauté de l'œuvre ou l'engagement politique ou l'homme tout court ?
La beauté de l'œuvre, incontestablement, parce que c'est celle-là qu'on contacte. Vous allez dans un musée, vous ne vous posez pas la question si Delacroix est grand ou petit, s'il est brun ou truc, s'il est chauve ou... Bon, on voit d'abord l'œuvre, c'est ce qui compte. Mais au fur et à mesure qu'on voit l'œuvre, les tâtonnements, la beauté des choses, et quand ensuite on comprend, on découvre l'individu, la complexité, enfin c'est un homme... Aucun homme n'est parfait. On a plusieurs volets dans sa vie. C'est un millefeuille de la croix. Un millefeuille avec des strates différentes. Quand il allait dîner chez Rachel ou chez Thiers, par exemple, ou chez des banquiers, il était là, poli, polissé, il faisait des mots, etc. Quand il rentrait chez lui, il écrivait l'inverse. Il fulminait contre la gabegie, la richesse de la vaisselle, par exemple, de Thiers. Tous ces cristaux, cette maison, etc. Mais qui le sait ? Sa personne. Il ne le dit pas nécessairement, mais pas toujours en tout cas. Mais à travers tout ce qu'il a peint, on comprend la souffrance de l'homme, les difficultés. Cet homme souffre, et il va souffrir encore plus vers la fin de sa vie, quand il aura peint 6 fois, à 6 reprises, une barque avec des passagers ballottés par la houle dans le lac de Génézareth. Et il y a le Christ au milieu des passagers. Et que fait le Christ ? Il dort. Et Delacroix sent que c'est une fin, le Christ dort.
On termine sur ces mots. Merci beaucoup Maurice Arama pour cette introduction qui nous donne envie d'aller beaucoup plus loin dans l'œuvre de Delacroix, dans la personnalité, et nous y reviendrons très prochainement, je l'espère. Je vous rappelle que vous êtes enseignant, directeur de l'École des Beaux-Arts de Casablanca, historien de l'art, spécialiste bien sûr reconnu de l'œuvre marocaine de Delacroix. Merci encore de nous avoir reçus ici à Fès durant ce festival dédié aux rencontres culturelles, au sacré et à l'art en général. Merci.